Bonjour à tous, chacun. Merci Scott pour ta prière d'introduction. Pour introduire ce temps de prédication, je voulais juste vous passer quelques images d'une bande dessinée. Je crois qu'on connaît tous à peu près Toto. Toto, c'est le garçon, le garnement par excellence, le cancre par excellence. Et dans cette BD, il a une discussion avec son papa. Donc je vous laisse lire tout simplement. Je ne vais pas lire les... Alors, je ne sais pas si des papas se reconnaissent dans le papa de Toto. Il y a toujours une époque parmi nos enfants où il y a la question du pourquoi. Et c'est vrai que je ne sais pas si vous prenez toujours le temps de répondre à toutes les questions de vos enfants, parce que parfois, il faut bien avouer que ça peut être usant et difficile. Mais en tout cas, il y a une question. Une question de nos enfants à laquelle nous devons répondre, à mon sens, en tant que parent chrétien ou simplement peut-être en tant qu'adulte chrétien. Et cette question, c'est celle qui concerne bien entendu la foi. Ce matin, nous allons évoquer un sujet important et essentiel, je crois, pour nos vies de famille et pour notre vie d'église. Comment accompagner nos enfants vers la foi? Nous avons de nombreux enfants dans notre assemblée actuellement. Nous avons aussi la joie d'avoir beaucoup de naissances ces derniers temps. On est à un rythme effréné, hein. Un bébé par semaine. Je ne sais pas qui c'est le tour cette semaine, mais bon, on verra, l'avenir nous le dira. Mais on a beaucoup de naissances, beaucoup d'enfants, et c'est une joie bien sûr de les avoir. Et avec les anciens, nous avons eu cette réflexion qu'il était important, d'autant plus important dans la situation dans laquelle nous sommes, où nous avons beaucoup d'enfants, beaucoup de projets dans l'Église, d'avoir aussi un moment pour évoquer ce sujet Bible en main, accompagner nos enfants vers la foi, en tant que parents bien entendu, mais aussi en tant qu'Église, parce que nos enfants ont besoin d'être accompagnés à la fois par leurs parents, dans leur famille respective, mais à la fois aussi au sein de l'Église. C'est une œuvre conjointe, ensemble. Ce qui est enseigné au sein de l'Assemblée doit trouver son prolongement au sein de la famille, et inversement. Plus cette œuvre sera conjointe, Église et famille réunies dans cet objectif-là, de présenter la foi, d'amener nos enfants à la foi, plus le message de l'Évangile aura un impact. Nous avons besoin d'être ensemble dans cette œuvre, et c'est une œuvre importante, essentielle. Ce thème n'est pas forcément le plus simple pour moi à aborder, parce que quand on évoque un thème de ce type-là, il y a un fort risque, c'est le risque de se mettre en avant, comme si la famille Kaufmann était le bon exemple, était le modèle à suivre. Et ce n'est pas du tout le cas. Je sais très bien en tant que père que j'ai fait beaucoup, beaucoup d'erreurs avec mes enfants. Je me suis loupé et que j'ai fait des bêtises avec eux dans leur éducation. Mon intention n'est pas de dire, de mettre en exemple et de donner ma famille en exemple, même si forcément dans la prédication je vais évoquer des choses qu'on a pu faire avec Manu dans notre famille, mais mon intention est vraiment de nous rappeler à vous, comme à moi le premier, des vérités essentielles de la parole de Dieu par rapport à nos enfants, si nous voulons les amener ensemble vers la foi. Prenez toujours les exemples que je vais vous donner de notre famille comme des exemples et rien d'autre. Ce n'est pas des vérités essentielles. Le modèle, il est uniquement dans la parole de Dieu. Et c'est à chacun, à chaque famille, de se forger une conviction sur ce qu'il faut mettre en place dans sa propre famille pour accompagner nos enfants vers la foi. Cela étant dit, je vous propose ce matin de voir ensemble 5 vérités essentielles que nous ne devons jamais perdre de vue si nous avons ce désir profond en nous d'accompagner les enfants vers la foi. Et la première vérité essentielle que je veux vous laisser, c'est qu'un enfant peut être difficile, mais doit surtout être vu comme une bénédiction. Et ce verset du psaume 127 qui dit « Des fils, voilà bien l'héritage que donne l'Éternel. Oui, des enfants sont une récompense. Ils sont pareils aux flèches dans la main d'un archer, les fils de la jeunesse. Heureux est l'homme dont le carcan en est rempli. Il ne connaîtra pas la honte quand il plaidera contre l'ennemi aux portes de la ville. » Je pense que tout parent, tout animateur de jeunesse, d'enfant, vous dira que ce n'est pas toujours simple de s'occuper de nos chères têtes blondes. Ça peut être même très compliqué, il faut l'avouer, décourageant. Mais en fait, il n'y a rien de bien surprenant à cela. Car tous les enfants, quels qu'ils soient, viennent au monde avec une aptitude innée au mal, pas au bien, au mal. Tous les enfants ont une inclinaison naturelle au mal. Et David le dit lui-même lorsqu'il écrit au psaume 51, verset 7. Je suis, depuis ma naissance, et ça concerne tout le monde ici, et tous les enfants de notre assemblée, depuis quand ma mère j'étais conçue, Je suis depuis ma naissance marqué du péché. Depuis quand ma mère j'ai été conçue, le péché est attaché à moi. Le péché est attaché au cœur de l'enfant. Et cela rend l'éducation des enfants pas évidente, il faut l'avouer. On aimerait qu'ils soient sages, obéissants, exemplaires tout le temps. Et on est confronté à la réalité. Et parfois, il faut bien avouer que cela nous déçoit, parce que c'est dur. Et dans ces moments-là, où on est sur les nerfs, où on est peut-être en colère contre nos enfants, nous avons besoin de nous rappeler cette vérité absolue qui traverse toute la Bible. Les enfants sont une bénédiction de Dieu pour nous. Je répète, les enfants sont une bénédiction de Dieu pour nous. Être parent, c'est une grâce particulière que Dieu accorde. Avoir des enfants dans notre assemblée, c'est une grâce particulière que Dieu nous accorde aussi en tant qu'assemblée, en tant qu'église. Et nous ne devons pas oublier cela, parce que sinon nous risquons de voir les enfants comme des obstacles à notre tranquillité, à notre épanouissement personnel. Et je vous le dis avec honnêteté, il m'est arrivé d'être étonné par les regards portés sur un enfant qui faisait un peu de bruit lors d'un culte. Il m'est arrivé d'être étonné par les commentaires de certains par rapport à des familles qui avaient plus de 2 ou 3 enfants. Il m'est arrivé d'être étonné de tout cela. Les enfants sont une bénédiction de Dieu. Et j'ai souvent besoin de me le redire moi-même avec mes propres enfants. Parce qu'ils sont tellement incroyables dans leur capacité à faire des bêtises et à se crêper le chignon les uns les autres. Et dans ces moments-là où il faut sévir, bien sûr, peut-être, j'essaie de me souvenir que mes enfants sont une bénédiction. Dieu m'a fait la grâce d'abord d'avoir un fils, Tom. Et c'est vrai que mon parcours personnel fait que j'avais besoin de construire une relation avec un garçon. Et c'était une joie pour moi de l'avoir. Dieu m'a ensuite fait la grâce, m'a surpris. Je viens d'une famille de 3 garçons, 3 fils. Et pour ainsi dire, je ne savais pas ce que c'était une fille. Et j'ai découvert avec les 2 miennes. Et j'ai une relation avec mes filles qui m'a surpris. Je ne m'attendais pas à vivre quelque chose comme ça. C'est une joie, une bénédiction que Dieu m'a donnée. Laurine, si je devais résumer Laurine, c'est une princesse avec des gants de boxe. Et j'aime Laurine, dans son caractère, dans tout ce qu'elle est. Léane, parfois j'ai eu l'impression qu'il y avait comme une corde qui était un élastique qui était entre nous deux, qui faisait qu'elle ne pouvait pas partir trop loin. C'était mon petit pot de colle. Bon, là, elle est au CP, ça commence un peu, la distance commence à se créer. Mais c'était incroyable parfois pour moi. Et Dieu m'a béni avec mes 3 enfants. Et j'espère que Dieu vous a béni pour ceux et celles qui sont parents. Et Dieu nous a bénis en tant qu'assemblée d'avoir des enfants au sein de notre communauté. C'est une bénédiction de Dieu et il ne faut surtout pas l'oublier. Les enfants peuvent être pénibles, très pénibles, et j'en sais quelque chose. Je ne sais pas si j'ai les plus pénibles, mais je sais qu'ils sont pénibles, les miens, parfois. Ils sont parfois énervants, décourageants, durs. Mais je veux me rappeler, je veux nous rappeler qu'ils sont avant tout une bénédiction que Dieu nous accorde en tant que parents, en tant qu'assemblée. Et ayons tous ce même regard vers nos enfants. Ils peuvent être durs, mais ils sont une bénédiction avant tout. Deuxième vérité importante. Un enfant obéit peut-être dans son comportement, mais doit surtout obéir dans son cœur. Éphésiens 6, verset 1 nous dit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Avec ce verset, on a le seul commandement de la Bible s'adressant directement aux enfants, le seul et l'unique. Le premier devoir des parents est d'apprendre à leur enfant à obéir. C'est un impératif, aucun parent ne peut y couper. Chaque enfant doit apprendre l'obéissance au sein de sa famille d'abord, mais aussi au sein de l'assemblée, je pense. Et il faut noter que cette obéissance envers leurs parents a une limite, selon le Seigneur. Si les parents demandent à leur enfant quelque chose qui est contraire à l'évangile, comme par exemple mentir, voler, alors l'enfant a la responsabilité de refuser d'obéir. Il ne s'agit pas pour l'enfant d'une obéissance aveugle à ses parents ou à un adulte. L'enfant doit être capable de discerner si devant Dieu, il doit obéir ou non. Et nous avons à apprendre à nos enfants à discerner s'ils doivent obéir ou non. L'apôtre Paul précise aussi que cette obéissance est juste. Oui, il y a de bonnes raisons d'obéir pour un enfant. L'obéissance d'un enfant est d'abord une source de protection pour lui contre le monde. Les parents, les adultes chrétiens ont une expérience, un vécu qui devrait leur donner plus de recul par rapport aux, défi du monde, par rapport à la tentation qui est devant les enfants. Et l'obéissance d'un enfant est là pour le protéger d'abord, dans ce sens-là, du monde, de notre société. L'obéissance d'un enfant est aussi une source de protection pour lui, et ça peut-être c'est plus intriguant, contre le jugement de Dieu. Un enfant rebelle et désobéissant est pris très au sérieux par Dieu. Dieu attache beaucoup d'importance à l'obéissance d'un enfant. Écoutez ce que disait la loi mosaïque à propos du traitement qu'on réservait à un enfant rebelle. En Deutéronome 21, versets 18 et 21, il dit « Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas, même après qu'ils l'ont châtié, tous les hommes de la ville le lapideront et il mourra. Tu expireras ainsi le mal au milieu de toi, afin que tout Israël apprenne et soit dans la crainte. » C'est sérieux, un enfant qui désobéit aux yeux de l'Éternel. L'obéissance d'un enfant est aussi une source d'apprentissage pour lui dans la vie. Pour apprendre, il faut toujours d'abord obéir. Si je veux jouer au foot, il faut que j'apprenne d'abord les règles du foot. Sinon, ça va être n'importe quoi. Et dans la vie, c'est pareil. On a des règles à apprendre de vie pour pouvoir apprendre à vivre simplement, avoir une vie bonne aux yeux de Dieu. Bref, l'obéissance est bonne et nécessaire pour un enfant. Elle l'a même été pour Jésus-Christ lui-même, dont il est dit qu'il grandissait en sagesse, en taille, en grâce devant Dieu et devant les hommes, en Luc 2, verset 52. Les enfants doivent obéir, car ils manquent de maturité dans ces quatre domaines-là. En sagesse, ils manquent de maturité intellectuelle. En taille, ils manquent de maturité physique. En grâce devant les hommes, il manque de maturité sociale, et en grâce devant Dieu, il manque de maturité spirituelle. Et un enfant a besoin de grandir dans ces quatre domaines-là. Et l'obéissance à ses parents est censée l'aider dans sa maturité dans ces quatre domaines. Nous devons donc apprendre à nos enfants à obéir. Mais trop souvent, je crois que nous nous trompons dans le type d'obéissance que nous recherchons de nos enfants. Je m'explique. Trop souvent, nous cherchons une obéissance simplement dans le comportement de l'enfant. Et on oublie trop vite de chercher une obéissance de cœur de la part de l'enfant. On doit se préoccuper du comportement de l'enfant, bien sûr, mais surtout des attitudes de son cœur. C'est bien d'enseigner les bonnes manières à un enfant, d'apprendre à être sage lors d'une invitation, par exemple. Mais au final, ça ne règle pas du tout le fond du problème de l'obéissance dans le cœur de l'enfant. Un enfant assis sagement sur un banc le dimanche matin peut être tout aussi rebelle, voire plus rebelle, que l'enfant qui bouge à côté de lui. C'est simplement, dans certains cas, que son caractère l'aide à avoir une obéissance de façade hypocrite plus facilement que son petit voisin. Et ce n'est pas le comportement qui doit être notre premier regard sur l'enfant. Ce n'est pas ça qui doit être le seul regard. Dieu ne veut pas d'un adulte qui a un comportement hypocrite de chrétien. Il veut d'un adulte qui a une attitude de cœur d'obéissance envers lui. Eh bien, ce que Dieu veut d'un adulte, il le veut aussi d'un enfant. Il ne veut pas d'un enfant qui a un comportement hypocrite d'obéissance. Il veut d'un enfant qui a une attitude de cœur d'obéissance. En tant que parent, en tant qu'adulte chrétien au sein de l'Église, nous avons la responsabilité d'apprendre à l'enfant l'obéissance. Mais si nous mettons toute notre énergie pour seulement corriger le comportement extérieur d'un enfant, alors nous prenons le risque d'en faire un hypocrite de plus. Que s'agit-il de faire alors? Il ne faut pas s'attacher seulement au comportement extérieur de l'enfant, mais d'abord à son cœur. Et pour cela, il faut pointer du doigt son péché. Parce que le vrai problème, c'est ça, c'est son péché qui est dans son cœur. Le fait d'enseigner simplement les bonnes manières à un enfant, par exemple, ne règle en rien le problème de son péché. Nous devons pointer du doigt le péché et ensuite leur montrer le chemin vers la repentance. Nous devons enseigner à nos enfants l'évangile, c'est-à-dire dénoncer le péché dans leur vie, leur expliquer en quoi c'est un péché, pourquoi c'est un péché, et leur montrer le chemin de la repentance vers Christ. Si nous nous attachons simplement à leur donner des remontrances parce qu'ils ont un mauvais comportement, sans pointer du doigt l'origine de leur désobéissance, leur péché, nous faisons fausse route. Nous avons besoin de leur indiquer leurs fautes, leurs péchés. Si nos enfants grandissent en ayant simplement l'idée de devoir respecter un certain code pour être quelqu'un de bien, d'avoir une obéissance dans le comportement simplement, sans jamais avoir pleinement conscience de leur besoin de repentance, alors nous faisons une énorme erreur pour nos enfants. Troisième vérité, un enfant peut être irrité, mais doit surtout être éduqué. Éphésiens 6, verset 4, « Vous, pères, n'exaspérez pas, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les, éduquez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. » La Bible demande aux parents, aux pères en particulier, de faire attention de ne pas irriter ou de ne pas exaspérer son enfant. Il ne s'agit pas bien sûr de dire oui et amen à tout ce que l'enfant demande. On risque de le déranger ou de l'embêter, le pauvre petit enfant. Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout ça. Le comportement que Paul interdit, à un père en particulier, est un comportement qui va décourager l'enfant, selon Colossiens 3, verset 21. Décourager l'enfant, peut-être en brisant sa personnalité, en brisant ses rêves. De quelle manière un père, une mère aussi peut-être, un adulte dans l'assemblée, peut avoir un tel comportement qui irrite un enfant, qui exaspère un enfant? Voilà quelques exemples. Par domination, un père qui domine ses enfants, sans dialogue, sans écoute, sans se préoccuper de son enfant, va le décourager. Par exemple, dans la recherche d'une carrière professionnelle, il doit avoir un encouragement à travailler dans les domaines compatibles avec la personnalité de l'enfant et ne pas être dans un dirigisme absolu du style « je suis, tu seras » ou « je n'ai pas réussi à être, alors tu seras ». Non, ce n'est pas envisageable ça. Par favoritisme, privilégier un enfant par rapport à un autre est un excellent moyen de récolter la tempête dans la famille. L'exemple biblique le plus frappant est bien sûr celui de Jacob avec Joseph. Ses frères se sont chargés de lui et l'ont envoyé en esclave en Égypte, même si Dieu a retourné la situation de la bonne manière. C'était une énorme erreur de Jacob. Par moquerie, un enfant doit être respecté comme une créature à l'image de Dieu. L'humour peut être forcément un bon ingrédient d'une vie familiale, mais si c'est pour être moqueur, humiliant pour son enfant, on va récolter son irritation et son exaspération, et elle sera logique. Par négligence, Dieu prête un enfant à ses enfants, Dieu prête un enfant à une assemblée, pour qu'ils aient un impact dans sa vie. Un père qui ne passe pas de temps avec son enfant est sûr de le rendre amer à son égard. Par hypocrisie, il est important d'avoir une vie honnête et transparente. Si vous dites à votre enfant de ne pas mentir, mais qu'il vous entend mentir au téléphone, quel est l'exemple que vous allez laisser? L'irritation, l'exaspération chez votre enfant. Par absence d'amour, on irrite ses enfants lorsqu'on les corrige sans leur montrer notre amour pour eux. Au lieu d'exaspérer son enfant, un père, une mère doivent plutôt rechercher à l'élever, à l'éduquer. Et dans ce but précis, Paul nous livre deux éléments fondamentaux. Si nous voulons élever un enfant, alors notre rôle est de l'avertir. Les enfants ont besoin d'être avertis des choses de la vie. Ils doivent être mis en garde par rapport au monde. Ils doivent être instruits dans la parole de Dieu, on y reviendra. Ils doivent être instruits par l'exemple, en évoquant des situations réelles de la vie familiale, de l'Église. Ils doivent être instruits des problèmes actuels, comme la sexualité aujourd'hui. J'espère qu'aucun parent ici, pense que c'est à l'école, aux copains, à la télé d'éduquer leur enfant sur la sexualité. J'espère que tous les parents ici ont pris le temps d'évoquer ces sujets-là avec leurs enfants. L'Église doit évoquer ces sujets-là avec les enfants de l'Église. C'est essentiel. Ce n'est pas à la télé, ce n'est pas à la société d'évoquer ces sujets-là avec nos enfants. C'est à nous de le faire. Est-ce que nous prenons le temps d'avertir nos enfants? Est-ce que nous prenons le temps de les avertir? Lorsque Tom est rentré au collège en 6e, donc il est en 3e aujourd'hui, nous avons pris le temps avec Manu de parler de la sexualité. Nous en avions parlé déjà avant, mais de le prévenir. Parce qu'aujourd'hui, l'âge moyen auquel nos enfants sont confrontés à la pornographie, c'est vers l'âge de 10, 11 ans. Ils n'attendent plus 15 ans. Hein. Et nous devions lui le prévenir par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, nos enfants sont confrontés, leurs petits copains, ils ont un portable, avec toutes les vidéos qu'ils veulent. Il fallait les confronter à ça. Nous avons prévenu Tom par rapport aux relations garçon-fille, parce que c'est essentiel aussi à cet âge-là. Est-ce que nous avertissons nos enfants? Si nous voulons élever un enfant, alors notre rôle est de les corriger aussi. C'est un thème qui fait couler beaucoup d'encre et qui a fait couler beaucoup d'encre parce qu'il a eu beaucoup trop d'abus parmi les parents, parmi les adultes, envers les enfants dans la correction. Et pourtant, la correction est fondamentale selon la Bible. Proverbe 22, verset 15 nous dit « La folie est attachée au cœur de l'enfant. Le bâton de la correction l'éloignera de lui. » La correction est essentielle d'après la Bible. Si vous croyez qu'il suffit d'avertir un enfant sans jamais le corriger, alors vous devez supposer que vous êtes en train d'élever un second Jésus. Je ne vois pas comment on peut avoir d'autres conclusions que cela. Tous les avertissements du monde ne suffiront jamais pour empêcher un enfant de s'égarer et de mériter une correction. La correction dépend de l'âge, bien entendu. Un jeune enfant est incapable de raisonner et je crois qu'une fessée adaptée sera beaucoup plus marquante et éducative que tous les discours du monde qu'il ne comprend pas. Bien sûr, maintenant avec mon fils Tom qui a 14 ans donc, je ne vais pas lui donner une fessée. Non, j'ai bien mieux. Je le prive d'écran, je lui prends son portable, ça vaut toutes les fessées du monde et en plus je me fais pas mal à la main. Donc c'est tout bénef pour tout le monde. Mais la correction est essentielle pour nos enfants. Nous avons besoin de les corriger. Parce que comme chacun d'entre nous, l'avertissement ne suffit pas. L'avertissement, c'est est-ce que vous êtes capable de tenir ferme face, vis-à-vis de tous les avertissements de la parole de Dieu? Nous en sommes incapables et Dieu a besoin de nous corriger. Et de la même manière, nous avons la responsabilité en tant que parents, en tant qu'adultes dans l'assemblée, de corriger nos enfants quand c'est nécessaire. Quatrième vérité essentielle. Un enfant peut être mal influencé, mais il doit surtout être bien instruit. Deutéronome 6, versets 6 à 7. Que ces paroles que je te donne aujourd'hui restent gravées dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras chez toi, dans ta maison, quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Ce verset met en avant l'un des rôles essentiels des parents et de l'Église envers les enfants. Nous avons le rôle d'inculquer la parole de Dieu. Comment inculquer la parole de Dieu à nos enfants? Voilà quelques idées qui ressortent de ce verset, je crois. D'abord, nous devons offrir un enseignement pointu de la parole de Dieu. En français, le verbe inculquer donne une impression de bourrage de crâne quelque part, presque de forcer l'enfant. Mais ce n'est pas du tout l'idée du terme d'origine. Le terme hébreu utilisé ici évoque plutôt littéralement le sens d'aiguiser, comme le fait d'aiguiser une flèche. Ce verbe évoque donc plutôt un enseignement pointu, précis, un enseignement qui met le doigt là où ça fait mal, qui met le doigt sur le problème du péché, un enseignement pointu. Voilà ce qu'écrit John MacArthur. Il écrit « Trop de personnes sont obsédées par l'idée de découvrir le minimum de vérité biblique qu'on doit croire pour quand même aller au ciel. Il faut enseigner toutes les doctrines essentielles à nos enfants. La sainteté de Dieu, le fait qu'ils sont pécheurs. Il faut s'assurer que les enfants sachent que leur désobéissance n'est pas seulement une offense pour les parents, mais que c'est un péché devant Dieu. Ils ont besoin aussi d'apprendre ce que Christ a fait pour eux. Il faut leur indiquer le seul remède possible à leur péché. Apprenez-leur ce qu'est la repentance. Pas un changement de comportement, mais un cœur qui se détourne du mal pour se tourner vers le bien, pour se tourner vers Dieu. Nous devons aussi offrir à nos enfants un enseignement compréhensif de la parole de Dieu. Notre rôle est d'avoir un enseignement pointu, précis, qui touche le cœur de l'enfant. Il ne s'agit pas de répéter les commandements de Dieu comme une litanie, sans rien en comprendre de la profondeur. Nos enfants ont besoin de comprendre l'enseignement de la parole de Dieu. Et pour cela, nous devons utiliser tous les moyens, et nous avons beaucoup de moyens modernes aujourd'hui, pour rendre le message compréhensible pour eux. Nous avons utilisé un tas de Bibles différentes avec Manu dans l'éducation de nos enfants. À un moment donné, nous avions trois enfants avec trois âges, bon, ils ont toujours des âges différents, mais qui ne permettaient pas d'avoir des temps d'enseignement ensemble parce qu'il fallait rendre la parole de Dieu compréhensible pour chacun. Et nous avons fait trois temps différents pour les uns et les autres, le soir. Pas forcément une demi-heure, mais d'avoir un temps simplement pour rendre le message de la Bible compréhensible pour chacun de nos enfants. Nous devons aussi avoir un enseignement pratique de la parole de Dieu. Comme cet homme, dans ce verset, qui livre l'enseignement de la parole de Dieu dans sa maison, sur la route, au coucher, au lever, il nous faut saisir toutes les opportunités de la vie pour enseigner nos enfants. C'est à travers toutes les circonstances de la vie que nous pouvons mettre en pratique avec nos enfants l'enseignement de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de savoir quelques leçons spirituelles par cœur, Il s'agit de les vivre. Il s'agit de vivre l'enseignement de la parole de Dieu. Récemment, Laurine est passée en sixième, elle aussi. On enchaîne. Elle a changé de... Elle n'est pas allée au collège où elle pensait aller avec sa meilleure amie. Et Manu a saisi cette promesse. Pardon. Oh. En disant que Dieu l'accompagnera partout. On va calmer, ça va aller. Ouf. Bon, en disant que Dieu l'accompagnera partout parce que c'est la réalité. Ce n'est pas grave où tu vas aller. Dieu sera avec toi et Dieu a un plan pour toi. J'entends et je vois malgré tout encore trop de parents qui, d'une manière ou d'une autre, négligent l'enseignement de leurs enfants. Et j'ai palé par quatre chemins. Si c'est votre cas, si vous négligez l'enseignement de la parole de Dieu avec vos enfants, alors vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir devant Dieu et remettre l'enseignement de la parole de Dieu au cœur de votre famille. Peut-être que vous trouvez mes paroles dures, mais c'est un sujet tellement sérieux. Je voulais simplement deux statistiques par rapport à ce sujet-là. 85%. 85% de la personnalité de l'adulte est formée à l'âge de 6 ans. Et ça, ce n'est pas une statistique de chrétien, c'est une statistique de sociologue, de scientifique. Léane vient d'avoir 6 ans. 85% de son caractère est formé. Deuxième statistique, 86% des chrétiens sont convertis avant l'âge de 15 ans. Si vous ne prenez pas le temps nécessaire à l'enseignement des principes bibliques à vos enfants, alors leur crâne se remplira de bien d'autres choses. Faites totalement confiance aux écrans et à la société à ce sujet. Nous n'avons pas le droit de passer à côté. C'est une question de vie ou de mort spirituelle pour nos enfants. Cinquième et dernière vérité. Un enfant a peut-être besoin d'un héros, mais il a surtout besoin d'un zéro. Matthieu 19, verset 14, Jésus dit « Laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi. » Merci beaucoup. Laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi. Les disciples voulaient écarter les enfants qui s'approchaient de Jésus parce qu'ils pensaient qu'ils ne représentaient que des personnes insignifiantes aux yeux de Dieu, aux yeux du Seigneur. Mais Jésus les a repris en leur disant de les laisser s'approcher de lui. Les enfants ont besoin de modèles qui laissent une trace significative dans leur vie. Ils ont besoin de héros qui leur indiquent le bon chemin, qui leur donnent le bon modèle. Et en tant que père, je veux être un héros pour mes enfants. Je veux être un bon modèle pour mes enfants. Je ne veux pas qu'ils cherchent un héros par défaut autre part. Je veux être ce héros, ce bon modèle pour eux. Parce que c'est le rôle que Dieu m'a confié en tant que père. Et qu'il a confié à tous les pères, tous les mères et tous les adultes dans l'assemblée. Est-ce que vous avez à cœur d'être de bons modèles, des héros pour vos enfants, pour les enfants de l'Assemblée? C'est le cas, je vous laisse trois conseils. Prenez du temps avec eux. On parle beaucoup d'avoir des temps de qualité avec nos enfants. Je crois que ça peut être vrai pour les ados notamment. Mais je crois que plus les enfants sont jeunes, plus ils ont besoin d'un temps de quantité avec leurs parents, avec leur père, leur mère. Un jeune enfant ne se souviendra pas forcément si vous l'amenez à telle ou telle activité extraordinaire. Mais il se souviendra si vous avez été là. Si vous avez été présent avec lui. Construisez une vraie relation avec eux. Entrez dans leur monde, dans leur imaginaire. Jouez avec eux. Avec Tom, j'ai joué à la bagarre des années durant. Bon, maintenant, ça commence à se réduire parce que je me dis, plus il grandit, à un moment donné, il va me mettre par terre. C'est pas bon pour moi. On a joué à la bagarre. On a fait plein de sports différents ensemble. Avec mes filles, c'est un secret, j'ai joué beaucoup à la poupée, j'ai joué à la Barbie, j'ai même dansé avec elle. Bon, ça reste vraiment dans le cadre familial. Personne ne le verra jamais en dehors de notre famille. Mais parce qu'il fallait construire cette relation avec mes enfants. Rendez visible votre relation à Dieu. Pendant plusieurs années, je n'ai pas fermé la porte de ma chambre quand je prenais le temps de lecture biblique. Mes enfants avaient accès à moi parce que je voulais qu'ils se souviennent de l'importance qu'avait la Bible pour moi, pour leur laisser un modèle. Pendant plusieurs temps, quand j'avais encore mes enfants sur les genoux, lors de culte, je priais systématiquement Pourquoi ? Parce que je voulais qu'ils aient ce repère, que la prière est importante pour moi, qu'ils aient ce bon modèle. Nous avons besoin de rendre notre vie spirituelle visible pour nos enfants. Les enfants dans ce passage ont eu un accès privilégié à Christ, le seul véritable héros. Et nous devons être, d'une certaine manière, ces mêmes héros auprès de nos enfants. Mais si nous voulons avoir un véritable impact sur nos enfants, alors nous devons absolument aussi être des héros pour nos enfants. Aucun de nous n'est parfait. Le premier qui est parfait lève la main. C'est bon, donc on est bon. Vous avez tous compris. Aucun de nous n'est parfait. Nous avons tous nos failles. Nous cherchons peut-être à cacher certaines d'entre elles du mieux que nous pouvons. Je pense que dans une certaine mesure, nous ne devons pas les cacher à nos enfants. Nos enfants doivent pouvoir aussi se rendre compte que nous avons nos propres luttes contre le péché, que nous ne sommes pas toujours justes, bref, que nous ne sommes pas parfaits. Quelle est la dernière fois que vous avez demandé pardon à votre enfant ou à un enfant pour un excès de colère, pour une décision injuste ou pour avoir été un mauvais exemple ? Quand est-ce que c'est la dernière fois ? Il est primordial que nous apprenions à reconnaître notre propre péché devant nos enfants, parce que dans le cas contraire, il y a deux risques énormes. Je veux être un héros pour mes enfants, mais si je ne leur montre pas que je suis aussi un zéro, alors je prends le risque qu'ils me mettent sur un piédestal et qu'ils croient « jamais j'arriverai comme papa ». La vie chrétienne, ce n'est pas possible. Et c'est une erreur énorme de faire croire ça à nos enfants. Je veux être un héros pour mes enfants, mais si je ne leur montre pas que je suis aussi un zéro, je prends le risque qu'ils arrivent à m'imiter et qu'ils en arrivent à croire qu'ils n'ont pas besoin de repentance. Et là encore, c'est une énorme erreur pour eux dans leur vie spirituelle. De la même manière qu'en tant que père, je veux être le héros de mes enfants, je désire aussi être leur zéro, parce que je sais que c'est le meilleur moyen pour indiquer à mes enfants le chemin vers le seul véritable héros, Jésus-Christ, parce que c'est lui le seul vrai héros. Nous sommes des héros et des zéros, et nous devons le démontrer à nos enfants, dans notre éducation, dans ce que nous leur disons, dans tout ce que nous leur montrons comme exemple. En conclusion, mon désir en tant que père pour mes enfants, mon désir en tant que responsable de cette église, en tant qu'ancien, en tant que membre de cette assemblée, pour tous les enfants de notre assemblée, est d'être un jalon placé sur leur chemin pour les accompagner vers la foi en Christ. Et j'espère que c'est le désir de chacun d'entre nous ici. N'oublions pas ces cinq vérités. Un enfant peut être difficile, mais doit être surtout vu comme une bénédiction. Un enfant obéit peut-être dans son comportement, mais doit surtout obéir dans son cœur. Un enfant peut être irrité, mais doit surtout être éduqué. Un enfant peut être mal influencé, mais doit surtout être bien instruit. Un enfant a peut-être besoin d'un héros, mais a surtout besoin d'un zéro. Peut-être que cette prédication vous a interpellé sur votre rôle de parent ou d'adulte chrétien au sein de l'Assemblée envers les enfants. Et si c'est le cas, je veux simplement vous proposer deux suggestions pour aller plus loin. Première suggestion, c'est de lire un livre. Alors, le titre original était « Un berger pour son cœur ». Ils ont changé le titre, ils ont mis « Fier de toi, fiston ». C'est une erreur abominable, mais bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Mais ce livre-là, c'est pour moi le meilleur, et de très loin, sur le rapport en tant que parent envers un enfant, le rapport en tant qu'adulte envers un enfant, sur le modèle d'éducation à avoir. Ne pas s'attacher notamment au comportement, mais s'attacher au cœur. C'est essentiel, et je vous conseille à tous de le lire, en tant que parent, en tant que grand-parent, en tant que futur parent. C'est important. Et la deuxième suggestion que je vous propose, pour mieux accompagner nos enfants, nous avons besoin aussi de formation. Nous avons besoin d'avoir une œuvre conjointe entre l'Église et les familles. Et plus cette œuvre sera conjointe, plus elle aura de force et d'implication dans le cœur de nos enfants. Et nous avons besoin d'être formés en tant que moniteurs d'école dimanche, en tant que parents. Et c'est pour cela que je vais laisser la parole maintenant juste à Chloé, qui est l'une des responsables avec Philippe de l'école dimanche dans notre assemblée, et qui veut vous proposer aussi une suggestion de formation qui va démarrer sous peu sur Grenoble.
Bonjour. Comment parler de Dieu avec ça ? Comment parler de conversion avec ça ? C'est un petit boulot quand même, hein. On ne va pas revenir sur l'importance que vous avez dans la vie des parents. Nous, parents, on a tous notre lubie, on a tous notre vision de notre enfant, et ô combien on a besoin de chacun de vous pour aider à faire avancer nos enfants avec Dieu. Et il y a beaucoup de raisons qui peuvent pousser les gens vers les bancs au lieu de les pousser vers les salles d'école du dimanche. On me dit des fois, je ne connais pas bien les enfants, à quel âge on joue au Lego ? Elle a 10 ans, elle fait quoi maintenant comme sport, comme activité ? Ou alors, je ne sais pas comment m'y prendre, moi. Je ne sais pas, on chante, on joue, on fait quoi ? Puis alors, les règles, les lois, oh là là, je ne connais pas, moi. Je peux être toute seule avec 50 enfants ou pas ? Puis alors, je n'ai pas d'idée. J'en ai. C'est un petit peu face à ces réponses-là qu'il y a quelques mois, un groupe de personnes de l'Église s'est retrouvé pour se dire « Et si on montait une formation ?» pour les personnes qui sont intéressées par les enfants, qui ont envie d'œuvrer parmi eux dans l'Église, pourquoi pas les parents ? Et voilà, je vous présente le flyer de notre nouvelle formation qui va commencer très bientôt. Et je vous en parle un petit peu. Cette formation, on l'a voulu pas trop lourde. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, elle est pour qui ? Est-ce qu'elle est réservée aux moniteurs qui sont en place ? Non, elle est pour tous. Elle peut être là pour ceux qui sont déjà moniteurs pour progresser dans ce ministère. Elles peuvent être là pour ceux qui démarrent dans ce travail avec les enfants. Ou elles peuvent être là pour les personnes qui se posent des questions et qui voudraient savoir « Est-ce que ça pourrait être pour moi, ça ?» Elle va être réalisée donc par des intervenants de plusieurs églises de notre agglo, par des personnes qui sont soit des professionnels de l'enfance, soit des personnes d'expérience. Je pense que quelqu'un qui a bossé 15 ans parmi les enfants, il est diplômé aussi, hein, d'accord ? Je fais partie de l'équipe de formation, et il y a aussi, par exemple, pour des personnes qui les connaissent, Rachel Chion, David Buc, et puis des personnes, on a Marion aussi qui va participer pour les collégiens, parce que moi je les aime pas les collégiens, je les connais pas bien. Alors, il va y avoir trois dates importantes. La première, c'est le 29 septembre. La formation sera de 9h à 16h. On ne veut pas qu'elle finisse trop tard, histoire d'avoir le temps de se retourner un petit peu après. Pique-nique tiré du sac. Et la première partie sera axée sur le rôle du moniteur, sur les règlements, les choses comme ça. Et la gestion de la discipline. Alors ça, c'est moi qui m'en charge. J'aime bien ça. La deuxième date, ce sera en octobre, qui sera plutôt axé sur comment mener une séance. Alors là, si je fais venir des moniteurs qui s'occupent des 3-6 et des moniteurs qui s'occupent des collégiens, on va être d'accord, on ne va pas pouvoir leur parler de la même chose. Donc en fait, cette journée-là, elle sera faite par tranche d'âge. C'est-à-dire que si on a envie de s'occuper des maternelles, on aura une formation qui sera axée pour ce public. Et en parallèle, des personnes se retrouvent pour les collégiens et pour les 6-10 ans. D'accord ? Donc ce sera par module finalement. Et la dernière date, en novembre, ce sera une demi-journée qui nous permettra d'échanger des idées beaucoup plus pratiques et qui sera axée sur comment encourager l'enfant à avoir une vie de disciple, c'est-à-dire à lire la Bible, l'importance de lire la Bible, d'apprendre des versets, de prier, etc. Et ce sera un peu la foire aux idées. Donc cette formation, on l'a voulu pratique, d'accord ? Je vous promets qu'à la fin de la formation, vous savez vous servir de ça pour parler de Dieu aux enfants, ok ? On l'a voulu rapide, 2 jours et demi de formation. La plupart des formations qui existent et que je vous encourage aussi à faire, bien sûr, par exemple, c'est 6 samedis de suite ou c'est 8 samedis étalés sur 2 ans. D'accord ? Donc nous, on s'est dit, allez, en deux jours et demi finalement, on a les armes pour attaquer. Et la dernière chose, c'est qu'on l'a voulu utile, donc on l'a placé au début de l'année. Alors on sait bien que le mois de septembre, c'est le mois de septembre. Il est chargé pour tout le monde, mais c'est aussi le moment où on attaque. Voilà. Tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est ça maintenant, c'est venez vous inscrire. je me tiens à votre disposition, bien sûr, si vous avez des questions. L'inscription pour la formation est nécessaire pour qu'on puisse s'organiser au niveau des locaux et du matériel, mais vous pouvez venir me voir ou m'envoyer un mail, tout simplement. Les amis, on a vraiment besoin de vous. Année après année, Philippe et moi-même, on essaye de renflouer les équipes de moniteurs d'école du dimanche. On aimerait vraiment que vous ayez tous conscience que c'est le rôle de chacun. pas seulement de quelques motivés qui aiment jouer à poule, renard, vipère ou des choses comme ça. C'est vraiment important qu'on puisse tous aider nos enfants à aller vers Dieu. C'est trop important, en fait. Voilà. Et bien, si vous avez des questions, je suis à la fin du culte avec vous. Merci.